toute la beauté, non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. La saveur des beautés qui passe, souvent le mieux qu'elle fait. Elle ravage les palais et ne laisse que des crevasses. Aussi pour nulle créature, oh non, je ne me perdrai pas. Sinon pour un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Non, jamais le cœur généreux ne veut aisément s'arrêter.
Vous écoutez À l'école de l'Oraison, le balado des écoles carmélitaines d'Oraison du Québec, saison 2025-2026, intitulé L'Oraison, racines, fleurs et fruits. Premier épisode, septembre 2025, intitulé tout simplement Ouverture. Cet enregistrement a été réalisé lors de la soirée mensuelle sur Zoom. Vous pouvez suivre l'actualité des écoles d'Oraison sur le site www.lecarmel.org, section frères, onglet activités. Bonne écoute.
Il défaille. Celui dont l'amour est brûlure a le dégoût de ce qu'il voit. Il désire un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Eh bien, bienvenue pour cette rencontre. Je voudrais d'une part, en objectif, présenter le thème, mais aussi, d'autre part, et puis c'est par là que je vais commencer, rappeler un petit peu comment on conçoit cette école d'Oraison, là, parce qu'il y a quelques personnes qui sont nouvelles. L'idée de fond de ces soirées d'école d'Oraison par Zoom, c'est de s'entretenir, s'encourager, s'accompagner mutuellement, dans l'expérience de l'Oraison. Et parlant de l'Oraison, je précise un petit peu, c'est bon de se le rappeler, l'Oraison, c'est du temps passé, et c'est du temps passé dont on pressent que ce moment pris dans la journée, c'est 5, 10, 15, 20 minutes, parfois 30 minutes pour certains, certaines, voire plus, c'est un petit peu comme un oasis, comme une source. Et j'y vis une rencontre avec Dieu, même si je réalise qu'elle est à la fois plus vaste, peut-être moins évidente et en même temps plus vraie, peut-être moins facile et en même temps plus proche. Elle est un petit peu paradoxale, cette rencontre. Ce que j'en perçois, c'est qu'elle est vivante, c'est qu'elle est nourrissante et que, après tout, je fais bien d'y revenir régulièrement. Et lorsque on fait Oraison avant ce temps d'enseignement ensemble, chacun chez soi, mais au moment, au même moment, et puis d'un certain point de vue, au travers de Zoom, si on veut, finalement, on met en œuvre ce que Thérèse d'Avila dit de sa fameuse, non pas définition, mais description de l'Oraison. Elle décrit ce qu'elle vit, elle ne donne pas une définition théorique. C'est que l'Oraison, c'est une relation d'amitié fréquente, seul à seul, avec ce Dieu dont on sait bien, dont on a expérimenté, qu'il nous aimait. Ça, c'est l'Oraison telle que Thérèse l'a décrit pour l'avoir éprouvée ainsi, et dans le fond, rien que là, dans la demi-heure qu'on vient de passer, c'est un petit peu ce qu'on fait. Et c'est intéressant parce que lorsque Thérèse parle de l'Oraison, elle parle bien sûr de ses toutes premières expériences d'Oraison étant jeune religieuse, je parle de Thérèse d'Avila, hein, mais très vite, cette expérience d'Oraison s'est trouvée en quelque sorte tissée par l'expérience d'Oraison de plusieurs autres de ses sœurs, hein, puisque c'est avec elle qu'elle va même fonder un nouveau monastère entièrement inspiré par cette intuition, cette expérience de l'Oraison. S'agissant du thème, l'Oraison, racines, fleurs et fruits, il s'agit d'images. Ce que donc nous allons un peu parcourir cette année, puis je vais l'avancer au fur et à mesure, et ce que, non seulement ce que je vous dis, mais ce qui revient dans les différents groupes d'Oraison, dans les échanges, dans ce que l'un ou l'autre d'entre vous parfois me partage à une autre occasion, ou m'écrit, ou etc., nourrit ce que je vous propose, hein, ça n'est pas un monologue. Dans tout cela, nous allons parcourir des images. Et les images sont nécessaires dans la vie en général et encore plus dans la vie spirituelle parce que plus on va profond dans notre humanité et plus nous avons besoin d'images parce que les choses ne tombent pas sous la main. Les réalités les plus profondes dans notre existence, nous les approchons, nous les évoquons à l'aide d'images, des images qui sont parlantes, qui d'un côté sont immédiatement parlantes, mais qui de l'autre ont besoin aussi de temps. Ça peut paraître un paradoxe. Les images dégagent en général immédiatement, c'est du reste le propre de l'image, d'avoir quelque chose d'immédiat sous nos yeux, à la différence du son qui lui est dans le temps. Les images nous proposent d'entrée de jeu des vues, en quelque sorte des perceptions, des saisies, et en même temps, les images, elles dégagent au fur et à mesure tout ce qu'elles peuvent porter. Si je dis cela, c'est aussi pour bien prévenir, une fois de plus, que l'oraison, l'école d'oraison, est en fait une école de l'oraison. On a déjà eu l'occasion de se le dire, mais je pense que chacun, chacune de nous, dans son expérience, l'approfondit. On n'apprend pas vraiment à faire oraison. On apprend que dans l'oraison, il se passe bien des affaires. Et on apprend que l'oraison est riche, mais que cette richesse, on ne peut pas mettre la main dessus trop vite, jamais en fait pour être exact, mais qu'on peut l'apprivoiser, on peut l'approfondir, on peut s'y faire, s'y acclimater, justement par le biais des images, par le biais des témoignages, qui nous permettent de nous orienter dans ce qui nous arrive intérieurement. Alors, dans cette pédagogie des images vives, nous sommes en plein dans la pédagogie de Dieu lui-même. À la différence des hommes et des femmes, mais parfois les hommes plus que les femmes, malheureusement j'en fais partie, Dieu ne fait pas de grands discours. C'est l'une des grandes différences entre Dieu et nous, c'est que lui ne fait pas de discours, il n'a pas une chaire d'enseignement dans une université. Mais Dieu a déjà, nous a déjà mis dans un monde d'images, et les images ne sont pas que visuelles, elles sont sonores, elles sont perceptives, c'est beaucoup plus vaste que simplement ce qui tombe sous les yeux. Ces images, cette grammaire en quelque sorte, toute cette symbolique puissante et profonde de Dieu, elle est dans la création, et dans la création, ne pensons pas simplement, même si c'est un petit peu le visuel qu'on a choisi, dans les arbres et les brins d'herbe et les oiseaux, hein, c'est la création, c'est dans tout son déploiement, c'est aussi toute la richesse de nos personnes humaines dans ce qu'elles déploient. Alors, dans un deuxième temps, ce soir, je vais justement revenir sur la Genèse. Et je vais vous expliquer pourquoi. Cela dit, préalablement, je voudrais regarder un texte que vous connaissez probablement, qui est dans l'Évangile de Matthieu au chapitre 3e. Vous pouvez en noter la référence, je ne vais pas vous en faire un cours d'exégèse ce soir, je peux même me contenter de faire appel à vos souvenirs. Vous trouverez l'équivalent chez Luc, dans le fond, j'ai choisi Matthieu, c'est par facilité, mais ça n'est pas plus important que cela. Je ne vais même pas le lire, je vais le faire de tête. Il s'agit de cet épisode où un grand nombre de personnes s'avancent vers Jean le Baptiste pour être baptisés par lui. Et parmi ceux et celles qui viennent à sa rencontre, il y a des hommes et des femmes, des jeunes et des vieux, il y a peut-être même des esclaves dans le lot, viennent aussi des pharisiens et des sadducéens, ce qui est un petit peu étonnant, mais ce n'est pas notre sujet ce soir. Et c'est là que je veux pointer, Jean-Baptiste pique une colère assez violente, qui commence par engeance de vipère. Qui vous a appris à fuir la colère qui vient? Produisez donc, et c'est ça ce qui m'intéresse, produisez donc un fruit digne du repentir. Déjà, la cognée est à la racine de l'arbre, etc. Alors, c'est assez troublant parce que cette parole, déjà, la cognée est à la racine de l'arbre, la hache est à la racine de l'arbre, va être prise par Jésus lui-même dans Matthieu. C'est très troublant, j'ai découvert cela récemment et je n'en ai pas l'explication, mais ce n'est pas ce qui m'intéresse ce soir. Ce qui m'intéresse, ce que je veux souligner, c'est cette interpellation de Jean le Baptiste. Produisez donc un fruit digne du repentir. Et j'aurai l'occasion de revenir certainement là-dessus, sur la question du fruit et la production du fruit. Je prends ce passage en soulignant tout de suite que, indépendamment du fait qu'on trouve ça dans la bouche de Jésus un peu plus tard dans l'évangile de Matthieu, mais en fait ça peut s'expliquer, je ne crois pas que Jésus ait endossé le même discours. Je ne crois pas que Jésus, avec ou sans colère, ait exigé de ceux et celles qui l'écoutaient, un fruit digne du repentir. Pourquoi je dis cela ? Parce que ça, c'est une presque un avertissement, une mise en garde, un appel à la vigilance que je nous adresse à tous et à toutes. L'oraison n'est pas productive. Et il n'y a aucune exigence de produire quoi que ce soit. Et ça, c'est très important de l'avoir à l'esprit. Ça m'a frappé il y a une semaine, un petit peu plus d'une semaine, lorsque je préparais notre rencontre. C'est un petit peu par hasard que j'ai fait ce rapprochement et que j'ai réalisé que derrière cette interpellation très violente, très vive de Jean-Baptiste, en transposant, on peut facilement entendre des interpellations à notre égard, soit d'autres personnes, soit éventuellement de nous-mêmes à nous-mêmes. Des exigences vis-à-vis de nous-mêmes dans l'oraison. Des attentes excessives, des attentes indues. Des attentes, des façons de concevoir l'oraison qui ne respectent pas le mystère de la personne que nous sommes, qui ne respectent pas la vie qui se déploie en nous. Ce qui guide, hein, je parlais d'une pédagogie d'images vives, ce qui guide Dieu, et ça va nous conduire à la Genèse, ce qui guide Dieu, ça n'est pas la mentalité de production, de vérification et de profit. Alors, profit, ça, on est tous d'accord pour comprendre que Dieu n'est pas vraiment un chef d'usine, un chef d'entreprise. Il reste que, et on le voit par exemple dans le Nouveau Testament, puisque Jean-Baptiste ouvre le Nouveau Testament de cette façon-là, il reste que dans nos vies chrétiennes, et puis dans la conception qu'on se fait de notre propre vie, peut-être aussi parfois influencé dans certains courants, hein, qui peuvent avoir leur place dans notre société. On a des exigences en termes de mise en œuvre de soi, de développement de soi-même, de développement personnel, etc. Ces exigences peuvent être assez terribles. Elles peuvent nous asphyxier comme on peut asphyxier une plante. C'est quelque chose que je prends de Jean-Baptiste en signalant encore une fois que il me semble que toute l'attitude, pas seulement les paroles, mais bien plus encore l'attitude de Jésus dans la suite, n'est absolument pas dans cette ligne-là. Il reste qu'il y a un mystère entre Jean-Baptiste et Jésus que je ne vais pas explorer plus loin ce soir. Je pourrais résumer en disant que l'usage intensif, éventuellement exclusif, du sécateur dans l'oraison et dans la vie spirituelle est à proscrire. Ben, je pourrais dire les choses comme ça, ce serait peut-être plus simple. Puisqu'on va parler d'arbres, de fleurs et de fruits, et puisqu'on est à l'automne bientôt, je vous déconseille d'adopter le sécateur, je nous déconseille d'adopter le sécateur comme le bon outil dans la vie spirituelle. Puisqu'on a la chance d'habiter un pays de bois, je nous conseille d'être plutôt à l'école du bois, même si parfois ça nous embête parce que dans le bois il y a beaucoup de choses, il y a des racines qui ressortent, on se prend les pieds, il y a des arbres qui sont hirsutes, il y a tout ce qu'on veut, plutôt que le jardin à la française. Que vous connaissez probablement en images, hein, ces magnifiques jardins de Cheverny et de Villandry, par exemple, les plus beaux jardins du monde, qui sont à peu près manucurés plus que les mains de certaines divas de Hollywood. C'est exactement la mauvaise représentation de la vie spirituelle et de l'oraison, de ce qui nous arrive dans l'oraison. Lorsque nous avons préparé le visuel de l'école d'oraison, je me suis fait aider de Lynn, merci Lynn, et dans nos échanges, Lynn m'a envoyé je ne sais plus de qui c'est venu, mais en tout cas c'est venu dans notre échange, cette image que ceux et celles qui ont vu le film The Shack, hein, le chemin du pardon, ont peut-être en tête, cette rencontre entre Mac, Mackenzie et Sarayou, l'Esprit Saint, dans le jardin, et Mac qui se croit autorisé à donner des leçons de jardinage à l'Esprit Saint en lui disant « Là, ton jardin, c'est quite the mess. » C'est pas mal le bazar, quand même, ton affaire. Sauf qu'un zoom arrière nous révèle, alors c'est vrai que c'est un beau schéma, mais c'est beaucoup plus que ça, nous révèle une luxuriance et quelque chose de magnifique de ce jardin. Bon. Mais ça, c'est vu de Dieu. C'est pas vu de nous. Alors, je laisse Jean-Baptiste Et j'en viens à la Genèse, au chapitre premier de la Genèse, le premier récit de la Genèse. Je laisse de côté le deuxième récit, il n'a rien à voir avec ce que je veux raconter ce soir, ou plutôt ce que le récit de la Genèse nous raconte. Ce premier récit de la Genèse, qui est à peu près inépuisable, il est en tête de notre Bible, hein. D'ailleurs c'est son nom, Bereshit en hébreu, Resh c'est la tête en hébreu, Bereshit c'est dans en tête, on pourrait dire en tête, c'est un peu l'en-tête de la Bible. Ce livre de la Genèse, ce récit de la Genèse, n'est absolument pas le plus ancien des livres de la Genèse. Il est au début, mais c'est pas le plus ancien chronologiquement, loin de là. Ce qui me laisse penser que ce récit, il véhicule aussi une sagesse qui a commencé un petit peu de faire son chemin, de bourlinguer, j'allais dire. Et s'agissant de tous les thèmes de fécondité, si vous lisez le reste de la Genèse, la fécondité, c'est un petit peu la grande préoccupation de ces hommes et femmes des temps anciens, qui n'ont qu'une peur, c'est que personne ne leur survive. La grande question de savoir si on va avoir quelqu'un qui va prolonger le nom, le clan, la race. Bon, la race, c'est même pas leur question, le clan, la famille. Ça, c'est des questions très archaïques, très anciennes, très respectables. Dans le livre, dans le récit de la Genèse, le récit de la création, il me semble qu'il y a une visée plus profonde qui nous fait quitter cette vision de la fécondité, encore une fois, tout à fait respectable et probablement encore présente dans nos mentalités aujourd'hui, au XXIe siècle, ce serait pas étonnant, pour considérer la fécondité autrement, la vitalité autrement. Je ne vais pas vous relire tout ce récit de la Genèse. Je vous inviterai à le redécouvrir en étant sensible à ce qui est de l'ordre justement de ce caractère vif des choses. Le récit de la Genèse, c'est d'abord l'histoire d'un créateur qui installe la lumière et qui, installant la lumière, découvre la matière et ce qu'il va pouvoir faire avec. Alors par après, les théologiens se sont plus à penser un Dieu qui crée de zéro, mais c'est pas vraiment le problème de la Genèse, c'est pas ça son affaire. Si vous avez déjà vu un artiste, un homme, une femme, travailler en peinture, travailler en modelage, en sculpture, que sais-je, travailler aussi en tissage, hein, c'est toujours une rencontre avec la matière. Bon. Mais il y a quelque chose de particulier dans ce récit de la Genèse, c'est que Dieu inspire de la vie. Dieu fait passer de la vie. Il y a quelque chose de fondamental dans tout ce récit, c'est que Dieu fait naître des êtres qui sont profondément vivants, qui ont, alors c'est sa façon de s'exprimer, qui ont leur semence en eux-mêmes, qui ont en eux-mêmes un pouvoir de vie. Et ça commence par l'herbe, tout simplement. Parce que dans le fond, la chose la plus étonnante, c'est qu'une surface du sol parfaitement aride et sèche commence à voir se lever sur elle un petit duvet vert. J'ai eu la chance de vivre en bande sahélo-saharienne en Afrique, et après 9 mois de saison absolument sèche, à la première pluie, il suffit d'attendre pas bien longtemps, et ce qui ressemblait furieusement au court de tennis central de Roland-Garros se couvre un petit duvet vert. Si vous venez 3 mois plus tard, vous avez du 1000 à 3,50 m, même pas, il faut 2 mois à peu près. Ce mince duvet, c'est ce qui pousse, c'est ce qui verdit, c'est ce qui verdoie. Or, le récit de la Genèse insiste non pas seulement là-dessus, mais sur le fait que le moindre brin d'herbe, il porte en lui-même sa semence. Il est fécond. C'est un thème que j'ai déjà eu l'occasion d'évoquer soit à l'école d'Horizon, soit ailleurs. Il est tout à fait majeur parce qu'il nous dit aussi quelque chose du regard de la Trinité Sainte, créatrice, sur toute sa création et sur chacun et chacune d'entre nous. Nous sommes chacun, chacune, foncièrement appelés à être des êtres féconds. Cette fécondité, elle n'est pas si facile que ça à exprimer. Elle n'est pas si facile que ça à s'en donner une idée, un concept. Je ne suis pas sûr d'ailleurs qu'on en ait un concept. Il me semble plutôt que c'est une révélation dans la vie de chacun, chacune d'entre nous. Il arrive certainement un moment, il arrive même certainement plusieurs moments dans la vie où on réalise enfin ce qu'il en est d'être fécond. Et cette fécondité n'est pas forcément une production. Cette fécondité n'est pas forcément une fertilité, un enfantement. Ça peut aussi l'être, bien évidemment, bien sûr. Mais je pense que c'est beaucoup plus vaste. Et si je l'évoque au tout début de notre école d'oraison, c'est que, je l'évoquais au début de cette rencontre, si nous faisons oraison, c'est qu'il nous semble, si nous revenons à l'oraison, c'est qu'il nous semble que, quelque part, il y va de notre vie. Il y a quelque chose de vital là-dedans. C'est pas obligatoire de faire oraison, mais c'est peut-être vital. Il y a quelque chose de l'ordre de la vie. Ça ne veut pas dire que si on ne fait pas oraison, on va tomber raide par terre ou on va s'asphyxier. Pourtant, si nous persévérons, y compris si nous nous acharnons alors qu'il nous semble qu'on a de la difficulté à faire oraison, c'est peut-être parce que on y perçoit quelque chose de révélateur pour notre vie. Il y a quelque chose de notre vie, de notre être profond, qui en est révélé, qui y est révélé. Pas forcément qui est exposé, qui est, j'allais presque dire exhibé, ce serait un petit peu exagéré de dire cela, mais nous rejoignons, nous atteignons quelque chose du plus profond de notre être. Et si c'est au plus profond de notre être, c'est un être vivant, ça ne peut pas être un être mort. Il nous arrive, peut-être y compris dans l'oraison, il nous arrive de traverser des zones, des sphères de notre être qui sont des sphères brûlées, qui sont des zones arides, qui sont peut-être des blessures ou à tout le moins des cicatrices. Il reste que l'expérience la plus profonde de l'oraison, c'est pas cela. L'expérience la plus profonde de l'oraison, parce que sinon on ne retournerait pas à l'oraison, on ne retournerait pas dans un décor aussi lunaire pour sentir une fois de plus que là on est mort au moins une fois. Non, si on retourne à l'oraison, c'est que il y a bien une expérience de vie et que cette vie est la nôtre. C'est pas celle d'un autre, c'est pas celle d'une autre. Il nous arrive de vouloir à nouveau la présence de telle personne parce qu'elle est vivante et que nous recevons quelque chose d'elle, nous recevons quelque chose de lui. Mais dans l'oraison, même si nous pressentons, en fait nous savons bien, comme dirait Thérèse, que nous rencontrons le Dieu vivant, nous faisons aussi cette expérience que en nous-mêmes, c'est la vie qui se manifeste, et une vie qui nous est donnée à nous. Et ça, c'est de l'ordre de l'expérience, de la reconnaissance, de la révélation d'une vie féconde. Vous voyez, ça n'a pas de rapport avec produire quelque chose. Et c'est aussi pour cela que ça prend beaucoup de douceur, beaucoup de délicatesse de notre part, de la part de Dieu, bien sûr. De la part de Dieu, bien sûr. Mais de notre part aussi. Alors, je disais un petit peu plus tôt que ce texte, ce récit de la Genèse, ce récit de la création n'est pas là pour nous décrire une création en bon ordre. Elle nous révèle surtout ce regard de Dieu qui veut la vie sans aucune convoitise de sa part. Dieu ne récolte pas. Je ne sais pas si vous aviez remarqué ça. Dieu aurait pu récolter, septième jour, il aurait pu passer son Shabbat à aller récolter les fruits parce qu'il y en avait dans les pommiers, là. Dieu ne l'a pas fait. Et plus globalement, Dieu ne vient pas réclamer les fruits. Ça nous renvoie à des passages évangéliques. Par exemple, puisque j'ai commencé par cela après tout, puisque Jean-Baptiste a menacé ceux et celles qui l'écoutaient en disant « Aïe, 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 on va vérifier si votre cœur est vraiment converti, là, parce que vous allez voir ce que vous allez voir. » Jésus propose une autre parabole chez Luc, du figuier qui ne donne pas de fruits depuis 3 ans, et d'un propriétaire un peu exigeant qui dit bah, « Regarde, là, tu vas le couper, le figuier, là, parce que franchement, là, quand on voit le prix de la terre et du mètre carré, on va le remplacer par autre chose qui donne mieux. » Et le cultivateur qui dit « Prends patience. » Je vais m'en occuper, puis vraiment, s'il ne donne pas de fruits. Ce genre de paraboles dans les évangiles, et c'est étonnant parce que cette fois, c'est Jésus qui les prononce, ce genre de paraboles est en consonance avec ce récit de la création qui ne met pas en scène une création productive, où on va espérer 1, 20, 30, 40, 60, 100 pour 1, ça c'est aussi dans les évangiles, on ne parle pas de ça dans le récit de la Genèse. On nous parle d'un récit où c'est C'est la vie qui ne cesse de se manifester. Mais le plus vivant dans le récit de la Genèse, c'est celui qui, au terme de la journée, dit « c'est bon, chinema tov ». Enfin, il ne dit pas chinema tov, il dit tov tout court. Bon. Et en hébreu, tov, ça veut dire beau et bon à la fois. Donc, le plus vivant dans l'histoire, c'est ce Dieu qui se laisse toucher par cette création, qui se dit « c'est vivant ». Et ce récit de la création, je nous invite chacune à peut-être pas le relire le nez dans sa Bible, mais à le relire, ou alors si c'est le nez dans sa Bible, faites ça sur un banc en pleine nature, faites ça je ne sais pas où vous voulez, ou écoutez-le en audio-livre, mais vraiment en essayant d'ouvrir, d'orienter votre livre vers cette création qui nous entoure, et de nous y lire nous-mêmes, dans cette création comme dans le récit. Et dans le caractère profondément poétique de ce récit, j'y pense maintenant, je l'ai là. Si vous connaissez Chouraki, les traductions de Chouraki sont toujours absolument magnifiques. Et si je le prends ici, hein, la terre gazonnera du gazon, herbe semence, arbre fruit faisant fruit pour son espèce, que la terre verdisse de verdure. Ça, c'est ma traduction à moi, mais ça marche bien aussi. Il y a quelque chose de très enthousiaste dans ce récit. Et bien sûr, on va s'en parler durant toute cette année, mais je nous rappelle, ou je nous apprends que dans le livre de la vie, lorsque Thérèse s'essaye pour la première fois à parler de l'oraison, au chapitre 9e, elle dit que nous sommes un jardin et que Dieu a arraché les mauvaises herbes et planté les bonnes. On avait déjà parlé de ça plusieurs années auparavant, avec cette remarque qu'on s'était déjà faite, très étonnante, que nous sommes à la fois le jardin et le jardinier. Bon, je ne vais pas relancer cela, mais cette expérience du jardin, on avait aussi déjà évoqué cela, le jardin est quelque chose de délicat, et c'est quelque chose qui a déjà la vie. Et en nous, l'oraison nous fait aussi peu à peu découvrir, et peut-être que parfois l'oraison, elle est longue, elle est lente, elle est pénible, parce que ça prend peut-être plus d'une fois pour nous laisser convaincre de la vie en nous. Je me demande parfois, moi en regardant ma petite expérience, s'il ne nous arrive pas d'être dans la difficulté, dans l'oraison et dans la vie, parce que nous sommes lents à nous laisser convaincre que en nous, la vie nous est vraiment donnée. Pourtant, cette expérience de la vie est immédiate, mais c'est nous qui ajoutons des intermédiaires, c'est nous qui ajoutons des restrictions, des considérants. C'est difficile hein, de lutter contre cela. C'est un petit peu comme la fermeture à l'amour. Il n'y a pas de solution miracle. La fermeture à l'amour, on ne peut pas le rouvrir au pied de biche. Donc la fermeture, la réticence à s'ouvrir à cette expérience de la vie, c'est quelque chose de très délicat. Si ça nous arrive à nous-mêmes, il faut être très patient envers nous-mêmes. Mais j'incline à penser que il nous arrive de connaître la difficulté dans l'oraison parce que nous avons du mal à nous laisser convaincre par cette vie en nous. Et que c'est la vie qui nous guide. Le premier indice de Dieu en nous, c'est la vie. C'est la vie. Et à quoi Dieu travaille? À la vie. Et comment Dieu nous prépare-t-il et nous fait déjà entrer en communion avec lui? Par la croissance de la vie. Et cette croissance de la vie n'est pas une croissance mesurable, géométriquement vérifiable, quoi que ce soit. C'est plus exactement une vie qui remplit enfin la personne que nous sommes, qui vient aussi rencontrer les zones plus arides, les zones plus blessées. Mais en même temps, c'est une seule et même vie. C'est une vie qui est toujours simple en elle-même. Et cette vie, dans cette capacité de jaillissement en nous-mêmes, est un don de Dieu, est une participation à la vie de Dieu. C'est la vie de Dieu. Mais participer, bien sûr, nous ne sommes pas notre propre source. Alors, voilà un petit peu ce que je voulais vous proposer pour ce premier soir. Alors, vous constatez que je n'ai pas commencé à poser premier trimestre racine, deuxième trimestre fleur, troisième trimestre fruit. Vous comprenez bien que ce n'est pas du tout comme ça que ça va fonctionner. Puis, de toute façon, Dieu, il fait ça en une journée. Alors, moi, j'aurais l'air bête de me faire ça en 9 mois. Chez lui, c'est immédiat. Nous allons plutôt circuler dans ces images puisque, je peux déjà dire cette chose qui paraît somme toute assez évidente, racines, fleurs et fruits, le continuum, c'est la vie, bien évidemment. Le continuum, c'est la vie. Et nous comprenons bien que ce qui nous apparaît en premier n'est pourtant pas premier dans la Genèse. C'est rare qu'on voit les racines d'un arbre. Souvent, c'est après les tempêtes, par déracinement, malheureusement. Pourtant, les racines sont là. Bon, c'est juste un indice. Je clôt ici, et puis dans les prochains épisodes, eh bien, on va tâcher d'avancer un petit peu dans notre exploration. Je vous remercie.
Et là, elle goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure.
Vous avez écouté la première rencontre des soirées proposées dans le cadre de l'école d'Horizon par Zoom et intitulée L'Horizon, racines, fleurs et fruits. Pour participer à la soirée qui comprend un temps de prière en commun puis un enseignement suivi d'un temps de questions, écrivez-nous à École Horizon Zoom, tout attaché, École Horizon Zoom, @gmail.com. Cette activité est sans frais. Plus d'informations au sujet des écoles d'horizon animées par la famille du Carmel sur le site www.lecarmel.org. La poésie pour toute la beauté de Saint-Jean de la Croix est mise en musique et interprétée par frère Pierre Eliane. Vous pouvez la retrouver sur les plateformes d'écoute en ligne. Merci de nous avoir écoutés.
Seul sans mémoire ni figure, sans le moindre appui quel qu'il soit, il découvre un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Et ne pensez pas qu'en son cœur où sont cachés tous les trésors, il trouve joie et réconfort dans ce qui donne ici la saveur. Ni passé, présent, ni futur, toute beauté passée déjà. Là il goûte un je ne sais quoi qu'on trouve par aventure. Cherche à s'avancer, mettra davantage de soin dans ce qui est encore loin, qu'en ce qu'il a déjà gagné. Aussi pour une hauteur plus sûre, je préférerais aller là où m'appelle un je ne sais quoi.